Bonjour à chacun, chacune, en particulier ceux et celles que je n'ai pas salués. Alors avant de commencer, je voudrais demander à deux personnes membres de l'Église, ceux qui veulent, deux personnes seulement, mais deux, qui veulent proposer des chants pour dimanche prochain, alors qu'ils viennent me voir. Hein? D'accord, pour cela. Pourquoi je dis ça? Parce que j'oublie toujours. Alors je téléphone partout, partout. Revenons à notre psaume au chapitre 8. Et pensons un peu à la personne qui parle à travers ce psaume. Je constate qu'il s'agit d'une personne dont les yeux ont été éclairés. Parce qu'on ne peut pas dire cela sans avoir constaté. Alors, cette même personne dit quelque chose encore merveilleuse dans le psaume 19. Alors, je vous demande d'aller dans le psaume 19 comme pour se rappeler qu'est-ce qui s'est passé pour que le psaume 8 ait un émerveillement de la part de David, le psalmiste. Dans le psaume 19 que nous allons lire, il est dit au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Waouh! Qui les observe, la récompense est grande. Y a-t-il des scientifiques parmi nous? Y a-t-il des biologistes? Y a-t-il des gens qui scrutent les molécules? Y a-t-il des gens comme les médecins spécialisés dans l'ophtalmologie? Est-ce qu'il y a des gens comme cela, Seigneur? En observant l'univers du plus petit au plus grand, même celui qui refuse Dieu est émerveillé par des choses qu'on puisse constater avec nos connaissances comme simples, par des choses qui sont constatées par nos connaissances comme complexes. Mais tous sont émerveillés. Regardez les feuilles des arbres. Au printemps, elles sont vertes. En été, elles sont vertes. La chlorophylle, un pigment vert dans les feuilles, absorbe les rayons rouges et bleus du soleil. La lumière se reflète, les feuilles nous apparaissent vertes. En automne, à mesure que les jours raccourcissent et que les nuits se refroidissent, la chlorophylle se décompose. La couleur verte des feuilles commence à disparaître. Certaines virent au jaune vif, d'autres produisent un pigment rouge. Mais à quoi servent les couleurs? Vous vous êtes posé la question. Demandez au peintre. Pourquoi les photorécepteurs de nos yeux nous permettent-ils de les voir? Nous savons. Selon Proverbe 16, au verset 4, il est dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même les couleurs. » Dans le psaume 145, 9, il est dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Vous ne pensez pas que les couleurs, Dieu les a faites pour que nos yeux soient en admiration sur les beautés. Dieu aime la beauté. La gloire de Dieu brille dans toute sa création, même à travers la couleur d'une simple feuille morte en automne. Vous y avez pensé. C'est ça, ouvrir les yeux sur les œuvres de Dieu. Je vais vous parler encore de ce livre. Il a pris de l'âge. De Werner Gitt et de K.H. Van Den. Je n'arrive même pas à prononcer son nom, Van Den Den. Si les animaux avaient la parole. Il a pris de l'âge ce petit bouquin. Les écrivains, qui ne sont pas des gens insensés, ont fait parler des animaux pour montrer leur nature exceptionnelle. Parlons du petit moineau dont nous utilisons pour se moquer de certaines personnes qui n'ont pas de mémoire à un cervelle de moineau. Alors voilà ce qu'il dit. Je suis destiné à voler. C'est pourquoi mon Créateur m'a construit comme un avion, avec une précision et une perfection technique hors pair. La moindre partie de mon corps est étudiée pour le vol. Certains humains ont même l'audace de prétendre que nous descendons des reptiles. Pensez donc, les crocodiles seraient nos plus proches parents. On veut même me faire avaler que l'existence des premiers moineaux remonterait à quelques 50 millions d'années. J'ai l'impression que l'on cherche à dissimuler l'aspect chimérique de ces opinions par une accumulation de millénaires. Mais laissons la théorie et considérons les faits, vous en jugerez vous-même. Une légèreté inimaginable caractérise les matériaux qui constituent mon corps. Presque tous mes os sont creux et remplis d'air, ultra légers. Ils n'en sont pas moins solides. Nous serions incapables de voler si, à l'exemple des reptiles, nos os étaient remplis de moelle. Le poids total du squelette d'un parent éloigné, l'albatros, ne dépasse guère 120 grammes à 150 grammes, en dépit de sa longueur, 1 mètre, de son envergure, 3 mètres. Son plumage est plus lourd que toute son ossature. À l'inverse des sauriens, son bassin, carrément soudé à la colonne vertébrale, confère au squelette la rigidité et l'élasticité indispensables à tout corps destiné au vol. Je ne vais pas vous lire tout le livre, mais je vais vous lire quand même quelques points essentiels concernant le témoignage du moineau sans cervelle. J'aimerais attirer votre attention sur un détail fort surprenant dans l'articulation de mon épaule. La cavité où s'emboîte l'humérus, pour vous qui avez étudié la science, l'humérus de mon aile présente un petit trou. Défaut de construction ? Pas du tout ! Cet orifice est traversé par un tendon qui rejoint mon minuscule muscle pectoral à ma clavicule ou omoplate. Ce système génial me permet de soulever mon aile, détail indispensable au vol. Êtes-vous toujours certain de mon ascendance côté reptile ? Si vous ne connaissez pas le petit livre, essayez de le trouver. Et si quelqu'un veut emprunter le mien, je le prêterai volontiers. Témoignage d'un petit moineau. Créé pour voler, dans les moindres détails, un trou remarquable sous l'aile, ou plutôt au niveau de l'omoplate, un système génial pour bien soulever son aile. Et si vous continuez à lire, un petit cœur résistant, extraordinairement résistant, qui bat plus de 7 fois à la seconde. Job, revenons dans la Bible, au chapitre 12, versets 7 à 10, dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. » Dans notre psaume, versets 4 à 7, il est dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux, sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève aux extrémités des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Non seulement que c'est une vérité, mais il est exprimé dans une poésie formidable. C'est la parole de Dieu. C'est vrai, il y a des moments où on regarde sans voir, où l'on écoute sans entendre, parce que nos pensées sont occupées par autre chose. Comme si nous étions sous hypnose et sous l'effet d'une drogue. Quelquefois, nous traversons une rue, risquant même de nous faire écraser, sans voir qu'il y a des voitures. Dans le psaume 19, nous dit que le cosmos, l'univers, témoigne non seulement de l'existence de Dieu, mais aussi sa gloire, par un langage universel, compréhensible à tous, pas seulement ceux qui parlent l'anglais. Hein ? Le soleil. Quelle poésie pour parler de ce soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir. Dans Romains au chapitre 1er, versets 19 à 20, il est dit « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. » Quand on les considère selon ses ouvrages. Mais si on se ferme, notre intelligence, notre sensibilité, alors nous ne verrons rien. C'est vrai. Selon encore ce Romains chapitre 1er, ceux qui mettent de côté tout ce qui concerne Dieu en seront responsables. Car Dieu est en colère face à des personnes qui voient et qui refusent de voir. Je vous fais promener un petit peu dans la Bible. Vous prendrez le temps peut-être de revoir ces versets. Je laisserai un petit résumé, quelques résumés à la fin de cette présentation de la méditation. Dans Amos, au chapitre 4, par exemple, au verset 2, à Israël désobéissant, mais ça peut être à nous aussi, nous qui sommes de cette génération. La parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël, quand il s'agit d'Israël. Nous pouvons dire cette parole, que cette parole n'est pas pour nous. Mais Dieu, dans sa bonté, renouvelle cet avertissement dans le Nouveau Testament, comme il le dit dans le chapitre 1er de Romains. Mais aussi dans les évangiles. Par exemple, dans Jean au chapitre 5, il dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Dans Matthieu, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. À l'heure, vous n'y penserez pas. » Dans Hébreux, il dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Attention au mensonge qu'il dit, qui dit « Il n'y a pas de Dieu, donc aucun jugement après la mort. » Vivons, mangeons, éclatons-nous, car demain nous mourrons. Nous avons ici un petit livre qui a été écrit par Marie-Christine Favre, qui a eu l'occasion de passer ici dans l'église. Elle nous amène à réfléchir sur les lois physiques. Dans ce petit livre, En quête de sens et de vérité, à la page 8 à 10, il est dit « Ne vous amusez pas à toucher les réglages de l'univers, ce serait la catastrophe. À vous de voir. Nous sommes là par hasard. » Ou dans le plan de Dieu. Dieu ou hasard, il faut choisir. Bien sûr, nous sommes tous ici censés être chrétiens, donc avoir choisi Dieu. Donc nous sommes appelés à être des personnes comme David dans le psaume 8, à être émerveillés par l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à continuer à être émerveillés. Fini les lassitudes dans l'émerveillement. Le psalmiste jubile. Il dit même au verset 14, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Mais qui sont ces orgueilleux? Ne sont-ils pas ceux qui refusent le témoignage de l'œuvre de Dieu en disant « Moi, je connais, Dieu n'existe pas. Tout ce que tu vois là, c'est venu comme ça. Comptons quelques millions d'années, des milliards d'années. » Alors, nous qui croyons en Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme, qui est venu pour rétablir cette relation avec ce Dieu saint, soyons des gens émerveillés. Et quand nous nous sommes émerveillés des œuvres de Dieu, nous sommes appelés à l'adorer, à le glorifier. Alors, notre psaume 8 de ce matin, nous avons lu le psaume 8 tout à l'heure, nous avons lu le psaume 19 maintenant. Nous constatons que dans le psaume 8, l'admiration est là. Parce que vous avez lu le psaume 19, la constatation du psalmiste face aux merveilles de l'œuvre de Dieu. David est donc en admiration devant l'œuvre de Dieu. Il reconnaît Dieu à travers la création. Il reconnaît sa domination sur toute la terre au-dessus des cieux. Il reconnaît qu'à travers toute sa création, Dieu prend soin de l'être humain. Et David en est reconnaissant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alors, je termine. Est-ce que je suis du genre de personne qui s'extasie devant l'œuvre de Dieu? Je ne dis pas ça de qui s'extasie devant une fleur pour une fleur. Mais je m'extasie devant une fleur en offrant à celui qui a permis cela, Dieu, d'être honoré par mon cœur qui se réjouit. Alors, si je devais laisser quelque chose, c'est qu'à travers ces deux psaumes, le psaume 8, le psaume 19, et d'autres psaumes d'ailleurs, apprenons, prenons l'habitude d'honorer Dieu pour son œuvre grandiose. C'est ainsi que nous retournons vers Dieu un cœur reconnaissant pour être à sa disposition. Voilà, le Seigneur soit béni par notre cœur reconnaissant et admiratif. Prions. Que mon cœur soit toujours en admiration devant ton œuvre, Seigneur. Que ce soit le petit enfant à la mamelle dont nous avons lu dans le psaume 8. Que ce soit dans des choses immenses, telles que l'univers à travers des instruments comme les Google Earth. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié à travers toute la terre, ô notre Dieu. Garde-nous des orgueilleux. Amen.